l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants en Corée du Sud. Les enfants l'attendent avec impatience, car il s'agit d'un jour férié où ils ne vont pas à l'école. De plus, ils reçoivent des cadeaux de leurs parents ou se divertissent dehors avec eux. Cependant, cette année, à cause du Covid-19, ils sont obligés de rester à la maison. Alors pour les cadeaux, au lieu d'aller faire du shopping, les parents les achètent en ligne pour se faire livrer chez eux. Ainsi, les entreprises de livraison à domicile connaissent une prospérité depuis la propagation de la pandémie. Selon les statistiques, l'an dernier, le volume des livraisons à domicile s'est élevé à 3,3 milliards de colis, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Parallèlement à cette croissance, les types de marchandises les plus livrés ont connu un changement. Selon le leader du secteur, CJ Korea Express, la quantité de livraisons d'aliments a progressé de 50%. Elle est en hausse depuis février et mars 2020, où le coronavirus a commencé à se répandre sérieusement au pays du matin clair. En particulier, les commandes de paquets de produits agricoles destinés à soutenir les agriculteurs et les pêcheurs touchés par la crise sanitaire ont bondi de plus de 6 000%. Et les services de livraison au petit matin ont enregistré une croissance de 180%. Dans ce contexte, le classement des articles les plus livrés a également changé. En 2018 et 2019, les denrées alimentaires ont occupé la première place. Les vêtements et les accessoires de mode se sont placés au deuxième rang, suivis par les produits liés à la santé. Or, l'année dernière, avec la croissance de l'intérêt pour l'hygiène et la santé, ces derniers ont devancé les vêtements et les accessoires de mode. D'autre part, en raison de la prolongation du télétravail et des cours scolaires en ligne, les livraisons des chaises se sont envolées de 110% et celles des imprimantes de 3 000%. La progression des commandes de produits liés aux exercices à la maison était considérable. 300% de croissance pour les hula hoop, 200% pour les tapis de marche, 190% pour les steppers et 100% pour les haltères. Et avec la popularité croissante de chapak, un type de camping consistant à partir en voiture pour la montagne ou la mer et à dormir sous une tente liée au véhicule, les livraisons des tentes pour cet usage se sont accrues de 440%. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Transports a récemment annoncé l'élargissement des vols touristiques sans atterrissage qui ont commencé en décembre 2020 à l'aéroport d'Incheon, aux aéroports de Gimpo, de Kimé et de Daegu. Les vols touristiques sans atterrissage désignent des vols qui décollent d'un aéroport domestique pour voler dans l'espace aérien d'un pays étranger sans y atterrir. Leurs passagers peuvent faire des achats dans les magasins hors taxes, tout comme les voyageurs ordinaires, et sont exemptés de placement en quarantaine après le retour au pays. C'est une solution que les compagnies aériennes ont trouvée pour sortir de la crise actuelle causée par le Covid-19. À chaque aéroport, 3 avions effectuent ce type de vol. Asian Airlines a déjà lancé un produit consistant à partir de l'aéroport d'Incheon pour passer par Busan, Fukuoka au Japon et l'île de Jeju avant de retourner au point de départ. Jeju Air, de son côté, a présenté des vols qui décollent à Incheon ou à Gimpo pour voler au-dessus de Busan et Tsushima au Japon. Les consommateurs qui regrettent les voyages à l'étranger ou les shoppings dans les magasins hors taxes accueillent à bras ouverts cette disposition. En revanche, plusieurs experts et organismes écologiques font remarquer que ce genre de vol va à l'encontre des mesures pour lutter contre la crise climatique, d'autant que les avions émettent une grande quantité de gaz à effet de serre. Dans le monde entier, la quantité de carbone émise par les avions représente 2% de la quantité totale annuelle. Face à cette remarque, le secteur des transports aériens plaide pour ce nouveau produit. Selon lui, la plupart des chiffres d'affaires des compagnies aériennes sud-coréennes est réalisé par les lignes internationales, à savoir 4 fois plus que celui des lignes domestiques. Étant donné que, pour le moment, il est quasiment impossible d'effectuer des vols internationaux, elles rencontrent une grande difficulté d'exploitation. Dans ce contexte, elles ont conçu des vols sans atterrissage en prenant en considération la demande des clients. D'après les données du ministère, de décembre 2020 à mars dernier, plus de 8000 personnes ont utilisé ce type de vol proposé par cette compagnie. Il estime que cette demande contribue à augmenter le chiffre d'affaires et à maintenir l'emploi dans le secteur des transports aériens du pays. La propagation du COVID-19 a obligé les gens à éviter de sortir de chez eux et de nombreux salariés à travailler à domicile. Depuis, le centre-ville de Séoul, qui était toujours rempli de monde, est devenu plus désert. Or, ces derniers temps, à midi, il commence à se remplir de nouveau de salariés qui sortent pour déjeuner. Devant quelques restaurants célèbres se forme une file d'attente et les tables sur leurs terrasses sont toutes prises. Selon un salarié qui travaille dans une entreprise située à Gwanghwamun, au cœur de la ville, l'année dernière, conformément aux consignes de sa firme, lui et ses collègues se faisaient livrer le plus souvent des plats cuisinés. Cependant, depuis que le temps se radoucit, ils sortent plus fréquemment pour déjeuner. Ce phénomène s'explique par le fait que les gens se sont lassés de la crise sanitaire qui s'éternise et de la distanciation sociale qui en résulte. Dans plusieurs restaurants, les tables sont disposées les unes près des autres, mais elles n'ont pas de cloisons transparentes. Dans cette situation, le restaurant de panier repas ou de kimbap, les rouleaux de riz farcis entourés de feuilles d'algues, qui ont connu l'an dernier une prospérité inédite, voit diminuer le nombre de clients qui demandent la livraison ou l'emballage de plats. D'après un restaurant de kimbap, dernièrement, la plupart des clients préfèrent manger sur place. Les salariés qui avaient tendance à déjeuner dans leur bureau afin d'éviter les contacts avec les autres le font maintenant de moins en moins. Certains disent même que l'on est retourné à la situation avant l'épidémie. Ils ne se rassemblent pas à plus de 4 personnes conformément à l'instruction du gouvernement, mais ils organisent de plus en plus souvent des réunions ou des soirées de bureau en petits groupes. Dans ce contexte, les commerçants dans les zones en dehors du centre-ville se plaignent en réclamant des mesures préventives contre la pandémie plus minutieuses qui prennent en considération la situation de chaque secteur et de chaque zone. En indiquant que, dans le centre-ville de la capitale, on voit souvent des gens prendre leur repas assis côte à côte dans un petit restaurant, ils remettent en cause la disposition gouvernementale qui limite le nombre de personnes pour les réunions personnelles. De leur côté, les autorités sanitaires soulignent qu'il n'est pas temps de se relâcher en matière de lutte contre l'épidémie. Elles ont annoncé la prolongation de l'interdiction des réunions personnelles à plus de 4 personnes jusqu'à la fin du mois.
Vous avez aimé? Vous avez détesté? Vous avez adoré? Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 5 mai, vous êtes en compagnie de Ko Jang-san. En Corée du Sud, la population dans les milieux agricoles ne cesse de diminuer. De plus, elle vieillit rapidement. Tout cela aggrave la pénurie de main-d'œuvre dans ces régions. Dans cette situation, le semis direct au moyen d'un drone et le repiquage du riz par une repiqueuse autonome émergent comme de bonnes solutions qui permettent de réduire le coût et la main-d'œuvre en appliquant de nouvelles technologies à l'agriculture. Le service de recherche et d'extension agriculturale de la province de Chungcheong du Sud a fait une démonstration de tâches agricoles par un drone et une repiqueuse autonome dans une rizière à Tangjin, dans cette région. Un drone chargé de 15 kg de grains de riz s'est envolé à 3 ou 4 mètres de hauteur pour les semer sur cette rizière de 3300 m². Cette opération n'a pris que 5 minutes. À côté, une repiqueuse autonome est entrée en marche. Conçue par un fabricant de machines agricoles, cet appareil fonctionne automatiquement en reconnaissant lui-même la configuration du terrain et son environnement sans que l'opérateur le manipule. Il suffit que ce dernier suive la machine pour repiquer le riz dans les espaces manqués. Avec une repiqueuse ordinaire, il faut 2 personnes pour ce travail. Une pour manipuler l'appareil et l'autre pour compléter le repiquage. Mais cette nouvelle machine en nécessite seulement une. L'ensemencement direct à l'aide d'un drone attire l'attention comme une technique agricole innovante et économe. Selon le service de recherche, pour une rizière de 1000 m², si on transplante de petits plants de riz avec une repiqueuse ordinaire, cela prend 10 heures, mais avec un drone qui sème directement sur le terrain, ce temps diminue à 5 heures. Ainsi, le coût de la production chute de 140 000 won à 20 000 won, soit de 100 à 15 euros. D'après l'organisme de recherche, cette nouvelle méthode permettra de réduire le coût à 900 euros par 1 hectare de rizière et de diminuer le temps de travail de 80%. Actuellement, une 30aine de repiqueuses autonomes sont utilisées dans la province de Chungcheong du Sud. La municipalité de cette région espère que l'application de ces nouvelles technologies agricoles pourra apporter une grande contribution à augmenter les revenus des agriculteurs et à renforcer l'industrie rizicole du pays. Kim, qui habite à Séoul, est employée d'une entreprise étrangère. Il y a quelques jours, elle a travaillé avec son ordinateur portable dans un café qui se trouve en face d'une plage à Gangneung, dans la province de Gangwon. Elle n'était pas là pour les vacances, mais pour effectuer à la fois du télétravail et un voyage. En cas de besoin, elle discute avec ses collègues via une messagerie instantanée ou des appels vidéo. C'est en février 2020 que la firme de Kim a adopté le télétravail. Quelques mois plus tard, elle a fermé son bureau à Séoul pour faire travailler à domicile tout son personnel de bureau. Selon Kim, au début de l'introduction de ce système de travail à distance, elle devait rester chez elle parce que son directeur l'appelait de temps en temps au bureau. Mais après la fermeture de ce dernier, elle a obtenu la liberté totale de choisir son lieu de travail. Ainsi, avec la prolongation du télétravail des entreprises causée par la crise sanitaire qui dure depuis plus d'un an, de plus en plus de salariés quittent leur maison, devenue leur bureau, pour travailler dans des lieux de villégiature, comme des plages, et y travailler en profitant du repos. Ce phénomène est dû au fait que les employés se rendent sur leur lieu de travail de moins en moins et que les entreprises réduisent leurs bureaux ou les ferment afin d'économiser les loyers. S'y ajoute la diminution des réunions où des gens se retrouvent face à face. Park travaille à domicile. En fait, son lieu de travail n'est pas sa maison, mais un hôtel sur l'île de Jeju. Conformément aux horaires de travail de son entreprise, il travaille dans sa chambre ou dans le salon d'attente de l'hôtel de 9h30 à 18h30. Ensuite, il profite du temps libre après le travail. Il nage dans la piscine de l'établissement ou visite des sites touristiques ou de bons restaurants. L'an dernier, il devait rester chez lui parce que quelques partenaires qui n'étaient pas habitués à la visioconférence lui demandaient de se rencontrer en tête-à-tête pour tenir des réunions. Cependant, avec la prolongation du Covid-19, tout le monde s'est habitué à discuter en ligne et il a enfin pu partir ailleurs. D'après une entreprise de bureaux partagés à Gangneung, 30% des clients sont des salariés provenant de la région métropolitaine. Ils logent dans un hôtel près de leur bureau provisoire pour travailler pendant la journée et après le travail, ils s'amusent sur la plage ou sympathisent entre eux. Face à cette tendance, les collectivités locales agissent rapidement pour attirer ce type de travailleurs. La fondation touristique de la province de Gangwon a présenté un service qui les vise. Il s'agit d'offrir des chèques cadeaux régionaux aux salariés qui logent dans 140 hôtels ou stations de vacances situées dans 18 villes de cette région ou de leur permettre d'utiliser gratuitement les salons business de ces établissements. En Corée du Sud, chaque année, 1,9 million de foyers d'une seule personne changent de logement en jetant plus de 5000 tonnes de meubles usés. Or, la plupart d'entre eux sont ensevelis ou incinérés, ce qui nuit considérablement à l'environnement. Beaucoup s'inquiètent de ce problème et essaient de trouver des solutions. Park Tae-hee est l'un d'entre eux. Il dirige une start-up sociale qui fabrique des meubles en papier, comme des tables, des chaises, des lits et des étagères. Ces produits ne contiennent aucune matière polluante et ils sont entièrement recyclables. De plus, ils sont moins chers que les meubles classiques. Comme ils sont légers et faciles à jeter, sa cible est les foyers d'une personne qui déménage souvent. C'est en 2012 que Park a trouvé son inspiration pour son affaire. Quand il a visité une exposition d'emballage organisée en Allemagne, les produits exposés qui étaient faits de papier l'ont beaucoup impressionné. Dès lors, il a fait des recherches seul pour concevoir des meubles en papier. L'année suivante, il a réussi à créer une étagère en papier. Mis sur le marché, cet article a connu un succès. Le nombre de commandes s'est élevé à 300 pièces par jour. Puis il a élargi la gamme de produits et a amélioré la méthode de fabrication. Ses clients ne sont plus seulement des particuliers, mais aussi des grandes entreprises, des salles d'exposition et des musées. L'an dernier, en raison du Covid-19, le chiffre d'affaires des chaises avec dossier pour l'extérieur, qui se vendaient à 20 000 pièces par an, a chuté. Mais il a rapidement lancé un nouveau produit qui était la cloison contre le coronavirus. C'était un vrai succès. Cela était possible grâce à la durée réduite de conception des articles en papier par rapport à ceux en plastique ou en fer. Selon Park, ces produits ont plusieurs avantages. D'abord, ils sont bon marché. Une étagère de deux niveaux coûte aux alentours de 10 euros. Ensuite, ils sont tous recyclables. Et enfin, on ne paie rien pour les jeter, alors qu'il faut payer entre 1,50 euros et 8 euros pour se débarrasser de petits meubles classiques. Park espère qu'à travers ses marchandises, il pourra transmettre aux consommateurs deux valeurs importantes, le confort et le respect de l'environnement.
Bonsoir à toutes et à tous. Le film de gangster Kuyu, Night in Paradise, signé Park Eun-jung, tente de renouer avec la tradition du cinéma tragique et sanglant de John Woo à Kim Ji-hoon dans ses meilleurs moments en passant par De Palma et Kitano. Et surprise, il y parvient par moments. L'île paradisiaque de Jeju, où se situe une grande part du film, n'a pas fini de nous surprendre. C'est ce que nous allons voir. Il est souvent difficile de connaître les véritables scénaristes des films produits par les monopoles. Ici, il s'agit de Next Entertainment. Officiellement, le réalisateur lui-même s'est accoquiné à l'adaptatrice Shin Soo-jung. Quoi qu'il en soit, le scénario a du blues à retordre. Un loup solitaire, désabusé, qui perd sa sœur et sa nièce d'un accident dès les premières minutes. Une nièce de gangster qui est suicidaire sur les bords, des gangs rivaux qui se tirent la bourre pour le pouvoir et une mission qui sent bon le dernier baroud d'honneur. Avec ce schéma glauque mais efficace, on est proche du célèbre mais surfait Samouraï de Melville, avec de meilleures scènes de baston, et surtout de l'indépassable A Better Tomorrow de John Woo. Il ne manque à vrai dire que la femme fatale, mais ce sera pour une autre fois.
Tu nous as sauvés.
Il est clair que Park, déjà auteur de films noirs jouissifs comme I Saw the Devil en tant que co-scénariste et VIP, mais aussi de Navrant, Showdown et New World, ne s'intéresse qu'aux moments de fusillade et de baston. On les trouve au début et à la fin du film. Citons une première scène de poignardage dans un sauna avec beau gosse tatoué à la Kitano. Puis une scène de cascade en voiture à faire pâlir les hollywoodesques Fast and Furious, qui se termine par un improbable carnage dans une voiture accidentée. L'acteur Hung Tae-gu, qui interprète le loup solitaire, se retrouve engoncé dans la voiture dont les portières sont coincées et affronte à l'arme blanche, voire avec tout ce qu'il trouve, une horde de gangsters mal intentionnés. Le pire est qu'il en réchappe. Mais que fait la police de Jeju où le tueur a été exilé? Notons au passage une jambe cassée, celle d'un gangster russe, à coups de portière de voiture. Mais le clou vient ensuite. Un excellent coup de pied revanchard dans la tête du pauvre tueur, et ce même tueur déjà bien amouché, qui est à deux cheveux de tuer son ex-employeur à coups de tête. Une première à ce jour, peut-être, dans le cinéma. Sur ce, la musique de Moog, jouée au piano et au violoncelle, vient donner un ton mélancolique à tout cela, en évitant la redondance habituelle des musiques de films made in Monopole. Si le début et la fin du film tiennent bon la corde des films noirs, violents, le milieu s'enlise dans une romance trop téléphonée, entre le tueur et la fille suicidaire. Traditionnelle sous intrigue poussive à la manière d'Hollywood, aggravée ici par la tendance locale à la minauderie de parcoutille, le réalisateur lui-même semble s'en désintéresser. Certes, l'île de Jeju est belle, bucolique, avec ses plages désertes balayées par un vent à décorner les bœufs, et serait un parfait contrepoint à la violence des gangsters. Certes, la musique de chambre mélancolique distancie et incite à la méditation transcendantale. Mais cela ne suffit pas à combler d'évidents trous de scénario. Étrangement, la star Cha Sung-won, qui joue un chef de gang blasé, ne vient compenser les choses qu'en fin de course. Il faut créditer le film d'un travail sur la couleur, qui est probablement lié à sa diffusion sur Netflix, donc à l'international. Les films locaux ayant longtemps bâclé cet aspect. Ici, les bleus et les verts viennent miter les images comme de la pourriture sur un vieux fromage qui correspond bien au monde imaginaire de ces gangsters de cinéma. Dommage que le color grading se perde en cours de route. À propos d'internationalisation du cinéma sud-coréen, le film tient la barre avec une violence qui a fait son succès en Europe et aux États-Unis. Notons quand même qu'il s'agit d'imagination, car on n'a plus vu de gangs s'affronter en plein aéroport depuis l'époque des dictateurs, où ceux-ci servaient à briser les grèves et à terroriser la population. De même, l'internationalisation se voit dans la profusion des armes. Le film est une vraie pub pour les célèbres semi-automatiques Tokarev russes. Reste un film inégal en dessous du meilleur noir sud-coréen de ces dernières années, Azura, de Kim Sang-soo. Mais meilleur que la plupart des films de gangsters locaux qui, souvent, ne sont que des prétextes pour faire reluire le star system. Ici, le jeune Hung Tae-gu et la transparente John Yobin restent en retrait pour sauver les meilleurs moments du film.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-sun avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci de votre fidélité à KBS World Radio. Je vous souhaite une très bonne soirée.